Donc bonsoir, bienvenue à vous tous donc, pour ce temps de lecture biblique avec ce thème toujours chair, corps, monde, avec pour aujourd'hui la voix de toute chair. Donc bienvenue à Jérôme, à ceux de Saint-Eustache, pour ce temps donc partagé autour de nos écritures. Donc avec trois passages, avec le psaume 8, avec incroyable, j'allais dire, louange à Dieu pour... cette merveille qu'est l'humain. Ensuite, l'Ecclésiaste, donc quelque chose de beaucoup plus désabusé, et peut-être beaucoup plus pragmatique, mais en même temps, qui reste aussi une louange. Et puis ensuite, une première lettre de Pierre, donc avec, j'allais dire pour terminer par le meilleur, goûter comme le Seigneur est bon. C'est une très très belle phrase, une des plus belles phrases de la Bible, mais aussi voilà, cette méditation sur la brièveté de la vie humaine et cette dimension qui est donnée par la parole de Dieu. Donc trois textes, j'allais dire très différents finalement, de la Bible pour réfléchir, continuer à réfléchir sur la chair finalement, sur notre vie en ce monde.
Oui, vas-y, ouais. Excuse-moi, bonsoir à tous. Effectivement, cette expression que nous avons choisie pour titre ce soir, la voix de toute chair, vient de la Genèse en fait, et pas des textes de création qu'on a lus l'autre jour, même si l'expression « toute chair hein, », nous l'avions dit, est omniprésente dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. Et ça vient du chapitre 6 de la Genèse, où on a le verset suivant qui dit « Dieu vit que la voix de toute chair s'était corrompue ». Et immédiatement, dans le même verset, on nous annonce la venue d'un homme qui est Noé, qui a trois fils, Sem, Cam et Japhet, et qui va être invité à choisir des couples de toute chair, justement, Kol Bassar en hébreu, pour les faire entrer dans une arche. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà, donc la voie de toute chair, le chemin de toute chair, de toute vie, hein, s'était corrompu, avait pris des sentiers de perversité. C'est à peu près ça qui est dit. Vous connaissez peut-être un roman anglais très connu du début du XXe siècle qui s'appelle The Way of All Flesh, la voie de toute chair. Vous savez, les Anglais sont souvent très attachés à des traductions, en particulier la traduction du roi Jacques, la King James Version, et ils ont, lorsqu'ils citent les Écritures, ils ont une langue qui est un peu patinée par les siècles, ce que nous n'avons pas vraiment, nous. Enfin, nous avons un peu perdu cette habitude de citer dans une langue classique. Nous citons dans des traductions modernes, ou des traductions de la Vulgate, mais nous n'avons peut-être pas tout à fait cette langue bien frappée que d'autres nations peuvent avoir. Voilà. Donc, c'est une expression, la voix de toute chair, qui est passée dans l'usage commun. Alors, effectivement, la chair, c'est le milieu qui nous unit les uns aux autres. Là où peut-être les philosophies modernes mettent l'accent sur les séparations, sur l'indépendance du sujet, l'autonomie du sujet moderne, l'incommunicabilité, comme on disait dans le cinéma des années 60, vous savez, le cinéma de la Nouvelle Vague, etc., on parlait beaucoup du thème de l'incommunicabilité dans le cinéma de Rossellini. Eh bien, la chair a cette vocation mystérieuse à nous unir. Et beaucoup de philosophes contemporains s'intéressent à la chair. Pas seulement au corps, mais à la chair. Michel Henry en particulier. Et la chair, c'est bien ce que Dieu a choisi pour nous rejoindre tous. Le grand philosophe Balthasar le dit, c'est par la chair que nous sommes aussi affectés par la chair du Christ. Parce que l'agir de Dieu et le pâtir de Dieu, l'action et la passion, en Jésus nous touche aussi. Alors, pas seulement par l'empathie, mais aussi parce qu'il y a ce milieu commun qui est la chair. Voilà. Et que la Bible, intuitivement, pressent d'une certaine manière à travers cette expression « colbassa », toute chair qui s'étend aussi aux animaux. Hein. On va le voir d'ailleurs dans certains des textes que nous avons choisis.
Peut-être le psaume 8 en premier.
Commencer par le psaume 8.
Le psaume 8 en premier. Donc cette louange, qui est-ce qui veut bien nous lire ce texte du psaume 8? Alors, pour la mise en page, voilà, il est mis après, mais oui, merci beaucoup.
Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre.
Alors c'est un très beau psaume. Moi je trouve c'est vraiment touchant, pour l'incroyable grandeur de l'humain. En même temps, je trouve que dans ce psaume on voit comme l'humain en train de se créer, d'être créé par Dieu. Alors on commence par les bébés finalement au verset 3. Et ensuite il y a qu'est-ce que l'homme, c'est Enoch. Enoch, c'est l'homme dans sa faiblesse, parce que la racine, c'est anach, si vous voulez, c'est être faible. Donc c'est l'homme dans sa faiblesse. Ensuite, il y a l'être humain. Bon, c'est mal traduit, je ne sais pas comment ils ont osé mettre ça. L'être humain pour que tu t'en soucies, alors qu'il y a marqué le fils d'Adam. C'est le fils d'Adam. D'abord, c'est pour nous, ça évoque la Genèse, bien entendu. Donc cet homme tiré de la terre, parce que Adama, c'est la terre, là, on dit la glèle, Shurakim est le glébeux, c'est assez beau. Oui. Et puis nous, le fils d'Adam, c'est le fils de l'homme, si vous voulez, on pense au Christ aussi. Donc, parce que quand on dit le Christ est le fils de l'homme, c'est formidablement ambigu, ça peut vouloir dire le Messie. Dans certains, je dirais, prophètes tardifs, mais 9 fois sur 10 dans la Bible hébraïque, le fils de l'homme, c'est le fils d'Adam, c'est au contraire, c'est l'humain tout à fait ordinaire, c'est l'humain dans sa dimension terrestre. Mais déjà, dans le fils d'Adam, j'ai l'impression qu'on voit quelque chose déjà de l'homme à l'image de Dieu, si vous voulez, créé par Dieu à son image, puisque ça évoque tout de suite, la création, dans la Genèse. Et puis ensuite, progressivement, on voit l'humain qui domine. Mais là aussi, il y a comme un écho peut-être à la Genèse qui domine tous les animaux, en commençant par les plus facilement peut-être plus faciles à gérer, par exemple le bétail, bon, effectivement, les poulets, on arrive quand même à peu près à les maintenir dans l'enclos, sauf quand il y a le renard qui se promène, bon, c'est vrai, mais globalement, quand même, voilà. Puis ensuite, le gros bétail, bon, une vache, on peut quand même la faire avancer à peu près là où on veut. Après, oui, les bêtes sauvages, ben, ça devient difficile. Les oiseaux du ciel, pour les domestiquer, c'est pas un cadeau. Les poissons, ben, pour domestiquer un poisson, c'est pas évident, quoi. Et puis tout ce qui court les sentiers des mers, on peut penser aux léviathans, aux monstres marins, là ça devient difficile à domestiquer, je dirais, à chatouiller sous le menton. Donc il y a cet humain qui est créé par Dieu dans une formidable croissance finalement. Alors il y a C'est vrai que quand au milieu il y a marqué « tu l'as fait », tu en as presque fait un dieu. Tu l'as fait presque l'égal de Dieu, ou oui, on pourrait dire aussi. Hein. C'est vrai que c'est vraiment le sommet peut-être de ce qu'on peut dire de l'humain. Et là, on reconnaît aussi une chose qui est très chère peut-être aux chrétiens d'Orient, hein, c'est cette divinisation de l'homme. Hein, et souvent, on le voit chez les mystiques, les théologiens orientaux. Voilà, en Christ, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il y a ce sorte de gigantesque mouvement qu'on peut voir un peu ici, je trouve. Voilà, on commence par un Dieu qui est créateur des cieux, finalement, de ce qu'il y a de plus haut. Et puis, il y a comme une descente vers le nourrisson, et puis cette remontée dans l'élévation de l'homme. Moi, je trouve que ce psaume est très... nous invite à la louange en reconnaissant la beauté de l'humain, de l'être humain. Voilà.
Et alors, bien sûr, on pense à la mélodie de Goudimel, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Parfois, la terre en rejouit le cantique. »
Voilà, c'est un psaume qu'on chante encore, hein, dans la musique du XVIe siècle. Mais c'est vrai que c'est un peu, nous, notre marotte de chanter ces psaumes du XVIe siècle. Hein.
Alors, il se trouve que c'était aussi un psaume qu'aimait beaucoup... le père de Bérulle, Pierre de Bérulle, qui a vécu non loin d'ici, probablement parce qu'il y a des résonances un peu augustiniennes avec cet homme qui flotte entre le néant et Dieu. Et effectivement, l'école française de spiritualité ensuite a mis l'accent sur l'anéantissement, sur le néant qu'est l'homme. Mais Bérulle, s'il n'était pas mort à 54 ans, on voit bien qu'il est plus proche des orientaux. Il a une pensée beaucoup plus équilibrée et il présente l'homme de manière presque pascalienne déjà. Et on dit souvent que Pascal, que paradoxalement, pour des raisons scolaires, on connaît mieux, mais Pascal a lu Bérulle. Hein. Pascal écrit 40 ans après. Mais vous savez, toute la dialectique des deux infinis, et puis la méditation sur la grandeur et la misère, grandeur et misère de l'homme, l'homme qui est à la fois ange et bête, et qui veut faire l'ange, fait la bête, etc. Mais il n'est ni l'un ni l'autre, il ne sait pas ce qu'il est. Hein. L'anthropologie pascalienne est un peu flottante, instable, alors que l'homme, dans la tradition médiévale, était encore présenté de manière assez substantielle. Avec une définition possible, comme chez Aristote. Tout d'un coup, là, il devient une réalité un peu flottante, un peu perdue dans l'univers, menacée par toutes sortes de forces. Et donc, on peut comprendre que Bérulle, qui est sensible à ce thème, bien avant Pascal, a été sensible, bien sûr, à ce psaume, qui n'est pas pessimiste, d'ailleurs. C'est pas voilà, qu'est-ce que je suis, je ne suis rien face à toi. C'est pas tellement une spiritualité d'anéantissement, mais voilà, une invitation à trouver sa juste place sous les yeux du Créateur et face à l'immensité de la création. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est le début, que ton nom est magnifique. Alors, outre que Bérulle a créé une fête qui s'appelle le nom de Jésus, mais enfin, ici, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est quand même l'insistance sur le nom. Et je pense qu'ici, il y a une petite erreur, parce qu'ensuite, on dit « par toute la terre, mieux que les cieux, elle chante ta splendeur ». Et d'autres traductions disent « il chante ta splendeur ». C'est le cas de la Bible de Jérusalem. Donc, ce serait le nom qui chanterait la splendeur, et non pas la terre. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi la terre chanterait mieux que les cieux. Bérulle, encore une fois, disait qu'il voulait se convertir à la terre parce que la terre était le lieu de l'incarnation. Mais ici, on est loin quand même du Nouveau Testament. Donc, je pense que, vous savez, en hébreu, il y a deux sujets possibles. Mais je pense que ce serait plus cohérent et beaucoup plus intéressant de dire qu'en fait, c'est le nom qui chante la splendeur et la majesté. Et c'est pourquoi, après, on parle de la bouche. Par la bouche, des tout-petits et des nourrissons. Donc, il y a la grandeur incommensurable de Dieu... Et ce nom est repris par la bouche des tout-petits. C'est ce que laisse entendre la Bible de Jérusalem, je peux vous lire. Donc ils ont gardé Yahvé, vous savez. Hein. Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom partout de la terre. Lui, qui redit ta majesté plus haute que les cieux par la bouche des enfants et des tout-petits. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Parce que l'idée... Oui ?
J'ai l'impression que c'est plus un impératif. C'est l'impératif de Nathan, c'est « donne ta majesté, donne
voilà.
ta... »
Voilà. Mais à qui parle-t-on ? Est-ce que c'est au nom ou...
Là, on parle à... c'est plutôt une prière, c'est une invocation du psalmiste pour que la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu puisse être manifestée, peut-être donnée. C'est une invocation, moi je verrais plus une invocation.
Parce que la méditation sur le nom, c'est à mon avis assez typiquement juif, d'où d'ailleurs le fait qu'on ne dit pas le nom impunément, et que le nom d'ailleurs de Yahweh n'était dit que par le grand prêtre le jour de Kippour, devant le Saint des Saints, etc. C'est l'idée que le signe finalement a une puissance et une efficacité aussi grande que ce qu'il dit. Le signifiant est aussi important que le signifié, ce qui aurait ravi Barthes, qui a écrit L'Empire des signes, vous savez, où il disait qu'au Japon, les signes, l'importance de la calligraphie était quelquefois plus important que l'objet désigné. Ici, c'est un peu ça.
Mais ce aussi, c'est que la déclamation du nom, c'est peut-être la louange qui effectivement... est puissante, hein. C'est-à-dire qu'on le retrouve ça souvent dans les psaumes quand même, que la louange en elle-même, la contemplation, la louange a une puissance c'est pas simplement j'allais dire du bien de Dieu, oui. Il y a une sorte de puissance, une manifestation, une sorte de théophanie, une manifestation de Dieu dans le fait de dire sa louange.
Parce que l'idée que effectivement, que le nom est presque sacramentel, pour parler catholique, c'est-à-dire qu'un peu comme une icône, au fond, que le nom n'est pas seulement une convention linguistique vide et échangeable et monnayable. On dit Dieu, mais on pourrait dire God, ou voilà. Mais que le nom dit quelque chose de la présence. C'est comme si le signe, tout simplement, était plus important. Je pense toujours à un pilote dans un avion, vous savez, il ne regarde pas la route. Et finalement, il regarde son écran, il se confie à un signe. Il ne faut pas trop y penser quand on est en avion, en fait. Mais il ne regarde pas par les nuages. C'est évident. Et en fait, ça donne à penser. C'est que quelquefois, un écran ou un signe, justement, un signe donc artificiel, un artefact, quelque chose qui est créé par l'homme, a plus d'importance que le réel lui-même. Alors c'est perturbant, mais je pense qu'on pourrait d'ailleurs étendre l'analogie.
Alors cela dit, c'est vrai que c'est peut-être dommage d'avoir mis Seigneur, notre Seigneur, alors qu'effectivement c'est Yahou, notre Seigneur, et déjà, parce que le nom Yahou, c'est vrai qu'on sait comment ça se prononce, c'est un secret de Polichinelle, c'est-à-dire que c'est assez récent qu'ils n'aient pas dit ce nom de Dieu. Puisque quand on dit Monsieur Netanyahou, on sait très bien que ça veut dire donc l'Éternel Yahou donne, en fait. Hein. C'est le même Nathan qu'ici, d'ailleurs. Donc on sait que ça se prononce Yahou, mais c'est un secret de Polichinelle. Il ne le prononce plus, effectivement, par respect. C'est-à-dire pour dire Dieu est au-delà de ce qu'on peut dire sur lui. Et donc c'est intéressant, je trouve, comme respect. C'est vrai que... Peut-être que les Juifs sont moins arrogants dans leur théologie que nous le sommes parfois, nous, chrétiens. On a vite tendance à dire que la doctrine nous permet de saisir Dieu, alors qu'eux, ils sont toujours dans le débat. Ils disent que chaque verset a 1000 interprétations, ou soit chaque lettre a 70 interprétations. Donc, ils ont toujours cette conception de Dieu qui serait finalement la synthèse impossible à faire entre l'ensemble de toutes les interprétations possibles, et donc refuser de dire son nom, c'est un peu ça. Mais là, dans Seigneur notre Seigneur ou Yahou notre Seigneur, il y a une confession de foi, c'est-à-dire le Dieu qui est Yahou, c'est un verbe à l'inaccompli. C'est vrai que là, ça rend pas bien finalement quand on met Seigneur, parce que Seigneur, ça fait féodal, ça fait alors que là, c'est le verbe être à l'inaccompli. Donc c'est je serai, c'est quelque chose qui invite qui invite au mouvement, qui invite à un être croissant, finalement une croissance de l'être. Ce qu'on voit d'ailleurs se manifester dans le texte même. Et donc au début, c'est une confession de foi en disant, ben voilà, cette source de l'être, de la vie du mouvement et de l'être, dit l'apôtre Paul dans le discours à Athènes. C'est notre Seigneur. Et là, il y a un nous finalement qui est intéressant parce que ensuite, des fois, il parle à la première personne. Hein, quand je vois tes cieux, donc il y a une personne qui s'engage, mais en même temps, il sait que c'est le Seigneur de tous. Et il y a ce nous qui apparaît au début. Je trouve c'est touchant quand même dans cette. C'est une très belle confession de foi, je trouve. Parce que parfois, il y a marqué Seigneur Dieu, Seigneur ou alors Seigneur Yahvé. Ce moment-là, c'est un titre, Seigneur. Alors que là, il interpelle Yahou, c'est notre Seigneur. C'est, je trouve, une confession de foi intéressante. Alors, cette confession de foi, au début, il y a le trait mystérieux du chef de chœur sur la guiguite qu'on ne lit pas, en fait. Mais les. Bon, ça peut se lire aussi pour le vainqueur sur le pressoir. Parce que guiguite, on reconnaît, si vous voulez, le guet de Gethsémané. Gethsémané, c'est le pressoir d'huile de Shemen. Et là, guiguite, c'est le pressoir, en fait.
C'est guitite.
Guitite, c'est oui. Comme guette, oui. C'est mané, c'est guitite, c'est le pressoir. Alors les gens disent, bon, peut-être c'était un instrument de musique qui ressemblait à une cuve de pressoir, why not? Si vous voulez, mais bon, du vainqueur, quand même, le vainqueur sur le pressoir, on a l'impression que c'est... Parce que le pressoir, c'est une image du jugement de Dieu, finalement. D'un jugement, c'est très classique, hein, le pressoir, la vendange comme étant le... la fin des temps, et puis ensuite les grappes sont mises dans le pressoir pour récolter le jus de raisin qui, fermenté, donne le vin de la vie éternelle. Donc c'est une image, le pressoir, du jugement de Dieu, mais d'un jugement de bienveillance, un jugement qu'est l'amour, qui garde le meilleur de chacun. Donc le vainqueur, il est sur le pressoir, c'est-à-dire que le vainqueur, il est celui qui est capable de tirer, peut-être dans le David, c'est-à-dire le bien-aimé, il est capable de tirer par l'amour, la grâce de Dieu, il est capable d'être vainqueur en gardant le meilleur de chacun. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit cette description de l'humain, peut-être par rapport au texte de l'Ecclésiaste, on pourrait se dire, bah, il nous fait un sacré portrait de l'humain, c'est une merveille des merveilles. Oui, en même temps, il faut vraiment le regarder par l'amour pour voir l'humain comme ça. Voilà. Ou alors d'une manière, dans l'espérance peut-être, dans le plan de Dieu, le projet, l'espérance de Dieu. Mais en fait, par l'amour de Dieu, voilà, même ne serait-ce qu'en germe, en voyant le nourrisson. Un nourrisson, c'est nul, un nourrisson, quand même. C'est pas performant, quoi. C'est pas performant. C'est dans l'égoïsme complet, de toute façon. Il ne veut sa mère que pour lui, il veut son biberon, mais il n'est pas en train de chanter des alléluia, ou alors d'une manière inconsciente, peut-être. Mais, donc, un nourrisson, ce n'est pas quand même génial. Et pourtant, il y a dans ce nourrisson déjà quelque chose de fondamental contre l'adversaire, vous voyez, c'est contre les négativités. Et donc, c'est peut-être cette puissance de développement qui est dans le bébé, peut-être cette confiance dans sa mère, dans le lait, cet attrait pour le lait de sa mère. Alors ça, on retrouve, si je dis ça, c'est parce qu'on le retrouve dans la lettre de Pierre qu'on va lire tout à l'heure. Hein. Un Dieu très maternant pour l'humain. Donc c'est un peu ce qu'on peut voir là, je trouve, et c'est assez encourageant, je trouve, d'avoir ce regard sur l'humain, en se disant, ben oui, si par exemple l'humanité est un peu nulle, ben à ce moment-là, regardons-la comme un nourrisson qui n'est pas performant, mais qui a besoin de téter le lait de la parole de Dieu et devenir cette merveille que Dieu rêve, que Dieu espère, que Dieu projette. Alors on le retrouve dans Matthieu, effectivement, où Jésus dit... n'entrent dans le royaume des cieux que ceux qui sont comme un enfant, finalement. On peut retrouver ça, non? C'est à ça que vous pensiez?
Tu as tiré tes louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle.
Voilà. Donc c'est à quel endroit de Matthieu, ça? C'est dans...
C'est Matthieu 21, verset 16.
Ah oui, d'accord. 16.
Mais c'est une citation?
C'est une citation de l'Ancien Testament.
Oui. Que fait Jésus? Dans quelles circonstances? Je ne me souviens plus. Regardez, Matthieu 21, 16. Ça n'est plus le sermon sur la montagne.
Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle.
Parce qu'il y a des aveugles, des boiteux qui s'approchent de lui et il les guérit. Et...
Oui.
Et donc les sacrificateurs sont choqués parce qu'il y a des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Voilà. Donc c'est la suite des rameaux finalement.
C'est ça.
Les enfants continuent à porter cette louange. Ah ben j'avais pas effectivement.
Ça peut avoir chassé les marchands de temple.
Mais voilà. Alors au milieu, donc là il y a une création de l'humain, mais en même temps il y a des signaux finalement aussi peut-être de quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance. On peut le voir à qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, c'est parce que pour que tu te souviennes en fait, et ce verbe c'est un verbe de l'alliance, souvenir, c'est tenir l'alliance, donc même unilatéralement voilà, Dieu tient son alliance. Donc il y a là quelque chose qui est dit de l'alliance, et pour que tu t'en soucies, c'est mal traduit aussi, à mon avis, c'est pour que tu le visites, c'est le verbe de la visitation hein, de Marie à Élisabeth.
Tout à fait, c'est superbe.
C'est paccade. Et donc, ces deux verbes, si vous voulez, qui sont au milieu, Dieu qui se souvient de l'humain, qui pense à l'humain, qui se souvient de l'humain, et puis Dieu qui se soucie de l'humain, ou plutôt qui le visite, qui lui rend visite, qui se rend présent comme l'ange à Marie, finalement. Eh bien... C'est des verbes de l'alliance, de Dieu qui fait alliance avec nous.
C'est ainsi que traduit d'ailleurs la Bible de Jérusalem. « Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter ?»
Mais voilà, ça c'est très très bon, oui, c'est parfait ça.
Le du Corneille.
C'est... Non mais c'est vrai. C'est,
oui,
c'est...
oui.
Et puis c'est beaucoup plus fidèle au texte que ne l'est ici la traduction œcuménique. C'est, à mon avis, ça aplatit beaucoup le truc. C'est presque de la Bible en français courant. Là, ils n'ont pas été très bons.
C'est étonnant parce que au moment de la minute de silence, j'ai pensé à ce texte puisque dans l'établissement, enfin dont je suis responsable, évidemment, on a marqué la minute de silence de manière la plus neutre possible. Mais ensuite, au cours de la journée, les élèves étaient invités à, vous savez, un geste de lumière. En France, on a tellement peur des rites religieux que lorsqu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi faire. Donc il faut absolument faire quelque chose, donc on fait des lâchers de ballons avec des cœurs ou des choses comme ça. Et puis un peu plus sérieusement, on fait quand même ce geste de lumière, parce qu'on fait une chapelle ardente, bien. Mais il faut quand même donner un peu de sens, parce que sinon c'est très pauvre. Et j'ai pensé à ce psaume, effectivement. Et j'ai expliqué aux adolescents que la flamme signifie que dans la mémoire et dans le cœur des personnes qui ont connu, donc dans toute cette densité, cette épaisseur relationnelle que tout être humain porte, les personnes, les victimes, décédées, continuent d'exister d'une certaine manière. Alors on sait très bien sûr que la bougie va s'éteindre à un moment, hein. Le symbole il est limité, mais la mémoire humaine aussi, et même le cœur de l'homme. Donc c'est là que les mots de la foi deviennent intéressants, et que des adolescents peuvent les comprendre, parce que ils ont envie quand même qu'il y ait quelqu'un, quelque part, lorsque tout le monde aura oublié, lorsque les générations auront passé et que tout aura sombré dans l'oubli, ça les touche de se dire que certaines personnes croient possible que quelqu'un encore s'en souvienne. Que quelqu'un garde mémoire en lui, dans son cœur de père, tout cela. Et au fond, c'est ça qui est dit ici. Hein. Qu'est-ce que nous sommes pour que toi, tu en gardes mémoire ? Alors que nous, nous croyons que nous faisons mémoire de Dieu par nos rites, etc. En fait, c'est lui qui fait mémoire de nous.
En tout cas, mais nous, on peut tenir en réponse, on peut tenir dans l'autre sens, évidemment. L'alliance aussi, oui.
Mais quand on va à la messe, c'est une démarche de nous, mais c'est aussi lui qui vient à nous.
C'est aussi qui vient, exactement. Alors sinon, donc là, une alliance, cette alliance, elle est... toujours la question dans l'alliance avec la Bible, c'est qu'il y a différents types d'alliances. Il y a une alliance, j'allais dire globale, comme avec Noé dont tu parlais, c'est avec l'humanité entière. Une alliance plus nationale, par exemple, avec Abraham, avec Moïse, c'est avec le peuple d'Israël, un peuple. Okay. Et puis, c'est vrai qu'avec, par exemple, avec David, c'est plus une alliance vraiment personnelle, hein, on dirait. Là, cette question, que ton nom est magnifique et toute la terre, il y a comme un point d'interrogation, finalement. Qu'est-ce que l'homme ? Il y a un point d'interrogation, ça fait référence à... peut-être à David qui dit « Mais qui je suis, moi, pour que l'Éternel me fasse cette onction d'huile et fasse de moi son roi ?» Donc là, c'est une alliance beaucoup plus individuelle. Mais finalement, dans ce texte, je trouve qu'on trouve un peu toutes ces alliances mélangées, mêlées, parce qu'on peut voir, moi je trouve, un peu quelque chose de l'alliance universelle avec tout l'humain, finalement, toute l'humanité entière. Et puis en même temps, avec le « nous », peut-être, qu'on a au début. Par ce Dieu qui est le Dieu de tous, de l'univers entier, et puis aussi donc, le côté très personnel, quand je vois, il y a quelque chose de, avec David, il y a quelque chose de très Dieu qui s'intéresse à nous en particulier avec notre nom, et puis je trouve assez touchant, au verset 6, 6-7, tu le couronnes de gloire et d'éclat, donc... il y a Dieu qui frôle un peu notre tête pour y poser une couronne, et puis il met sous nos pieds l'animal, et donc on est comme entre les deux mains de Dieu, finalement, comme tenu, vous voyez, je veux dire couronné sur la tête, et puis tenu, sous les pieds, en mettant les animaux sous nos pieds. Alors, les animaux, on pourrait y voir... Peut-être, comme début de la Genèse, l'idée que l'humain est maître de la nature, on peut le voir comme une responsabilité aussi, hein, puisque c'est la mode en ce moment, puisque tout est mis sous nos pieds, et ben on est là pour garder et cultiver, finalement, comme est dit dans la Genèse.
Et pour ne pas piétiner, justement.
Et pas piétiner, c'est sous nos pieds, mais au contraire, Et puis peut-être que cette humanité qui doit être notre marchepied, c'est peut-être notre animalité, qui doit être gouvernée, tenue, mise sous nos pieds, c'est-à-dire qu'elle vienne nous porter et pas qu'elle nous écrase non plus, notre animalité. Voilà.
Alors on retrouve un thème qu'on a vu la dernière fois. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, etc., il ne faut pas oublier que c'est très étonnant dans l'environnement proche-oriental de l'époque. Les psaumes ne sont pas nés de rien, hein. Ce sont des poèmes qui sont issus de la grande tradition et du patrimoine littéraire du Proche-Orient. Donc il y a des influences ougaritiques, il y avait des hymnes ougaritiques qui étaient des poèmes, hein, de création également. Évidemment, il y a toute une poésie babylonienne ou assyrienne. Et on l'avait dit la dernière fois, les cieux sont toujours présentés comme des hiérarchies célestes, des milices célestes, Yahvé Sabaoth, etc. Donc comme des dieux, il y a une divinisation du ciel. Et là, on voit bien dans la désinvolture, c'est presque, on a l'impression que Dieu s'amuse, qu'il joue avec son cosmos, avec cette création, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées. Donc, on avait parlé la dernière fois de désacralisation et même de désenchantement. On avait dit que le désenchantement du monde, c'est pas quelque chose qui serait propre à la modernité tardive. Le désenchantement du monde, il est présent dès les grandes intuitions religieuses d'Israël, à savoir qu'on vide la création, le cosmos, la végétation de toute présence sacrée. Les sources ne sont plus sacrées, les arbres ne sont plus le lieu habité par une nymphe ou un dieu. Donc il y a quelque chose ici de, voilà, qui rejoint un peu l'inspiration de la Genèse.
Alors voilà ce beau psaume. Peut-être on peut passer donc à Ecclésiaste, si vous le voulez bien, ou Coëlette, on dit des fois. Donc ce texte très curieux, qui est, c'est un livre vraiment atypique hein, dans la Bible, qui a son entrée dans le canon, c'est-à-dire dans la liste officielle des livres de la Bible, a été très discutée longtemps, l'est encore par certains, mais finalement a trouvé place dans le texte biblique, et c'est je trouve, une grande chance, parce que ça complète vraiment bien donc le texte biblique, cette bibliothèque qu'est la Bible, avec des fois un côté oui assez désabusé peut-être de l'écrit de sur la vie humaine, et en particulier sur peut-être le désir humain, sur qui est infini, et puis qui, alors que notre vie est finie, notre temps est fini, et donc il y a là quelque chose qui est dit du, j'allais dire, de la, peut-être du tragique de la vie humaine en ce monde, et puis cherche à explorer cette, et laisse finalement sur des éclairs de ce qu'est Dieu, et qui vient apporter dans ce sorte de difficulté de vivre la finitude de notre existence en ce monde, et la transcender. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau, très belle voix, très beau texte.
Un peu tragicomique d'ailleurs par moment, parce que il faut vraiment lire l'Ecclésiaste. Hein. C'est très à la mode, d'ailleurs, depuis quelques décennies. On fait des petites éditions séparées, très chic, etc. Parce que c'est un peu, voilà, le scepticisme occidental. Il retrouve un peu ses marques. Mais c'est un peu du Woody Allen. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu désabusé, mais en même temps, on voudrait bien croire, mais on n'y arrive pas totalement. Et voilà, je crois qu'il faut lire. C'est très, très surprenant à lire. Parce que ça nous prend vraiment. La traduction de Renan, bien sûr. Oui. Et je pense que lui-même a dû se régaler à traduire Coëlette. Ouais.
Je ne me rappelle plus, il y a un gars de Boulipo qui en a fait une, mais malheureusement, elle est épuisée.
Ah, ah ben oui, j'aimerais bien. D'accord.
Un poète, alors oui. Je pense que ça doit être quelque chose.
Ah oui, ça doit être quelque chose.
J'ai appelé pour demander s'ils avaient l'intention.
Ah oui. C'était pas que nous, non, c'était... Oui.
Jacques Roubaud.
Ah, mais je pensais à Jacques Roubaud. Voilà. Oui, je pensais à lui, mais je le voyais mal traduire ça. Mais oui, Jacques Roubaud, tout à fait. Mais qui doit toujours être en vie, d'ailleurs.
Oui,
parce que, oui, voilà. Vous voulez lire ? Ah, c'est le contraire. Voilà, c'est ça qui est...
Dans un sens, c'est l'antithèse, bien qu'il y a quand même des éclairs dedans de lumière. C'est pas entièrement...
Très sombre.
C'est très sombre, en même temps, c'est pas entièrement désabusé. Je trouve qu'il y a des éclairs, des fulgurances au milieu de quelque chose.
Allons-y.
Quel profit à l'artisan du travail qu'il fait ? Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à en reprocher. Et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa place. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu va rechercher ce qui a disparu. J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté. Et qu'au siège de la justice, là était la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour chaque chose et pour chaque action. Je me suis dit en moi-même, au sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver. Alors, on verra qu'en lui-même, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de cela. Ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va vers un lieu unique. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre? Je vois qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. En effet, l'homme aimera voir ce qui sera après lui. D'autre part, je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Regardez les pleurs des opprimés. Ils n'ont pas de consolateur. La force est du côté des oppresseurs. Ils n'ont pas de consolateur. Et moi, de féliciter les morts qui sont déjà morts plutôt que les vivants qui sont encore en vie. Et plus heureux que les deux, celui qui n'a pas encore été, puisqu'il n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se pratique sous le soleil.
Alors, évidemment, c'est le dernier paragraphe, les derniers versets, c'est un lieu commun de la pensée grecque, de la pensée méditerranéenne, c'est un topos, l'idée que finalement celui qui n'a pas vécu est plus heureux que celui qui a vécu. On trouve ça dans les tragédies grecques, hein, ça, c'est dit explicitement, ça c'est vraiment de la pensée grecque. Qui ne s'est pas formulé ça un jour d'ailleurs. Alors, il y a un passage, moi, qui m'a frappé à la relecture, puisque vous savez que depuis quelques jours, on nous dit que finalement, ce qui a été frappé vendredi soir à Paris, c'est une certaine liberté, un certain mode de vie, ou le verre de vin du début du week-end, la musique, la joie de vivre, les jolies filles, tout ça, c'est insupportable, et que donc il faut absolument... il faut détruire ça, une forme donc de nihilisme. Et alors certains réagissent à ça en disant oui, c'est vrai, mais quand même, la France n'est pas uniquement cette légèreté, cette tradition galante. Alors on entend des voix quand même qui un peu timidement disent voilà, il n'y a pas que cette horizontalité non plus, il y a peut-être d'autres valeurs que l'hédonisme même sympathique, hein. Et puis la légèreté française. Et alors là, c'est étonnant parce que le texte apporte une réponse en disant « Tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela aussi, c'est un don de Dieu. » Donc, il y a une réconciliation de l'horizontal et du vertical, d'une certaine manière, entre ceux qui disent « Ah oui, la vie sur Terre, c'est ça, c'est les bons moments d'amitié en terrasse. » Et puis ceux qui disent « Ah non, il y a quand même une profondeur, une gravité de la vie », ben, l'Ecclésiaste réconcilie un peu les deux en disant qu'aussi c'est, ça fait partie de la grâce de savoir reconnaître l'origine du don. S'il y a un don, c'est qu'il y a un donateur. Et de le reconnaître, c'est aussi une grâce. Et de reconnaître sa grâce, c'est aussi la réponse qu'on donne à la grâce. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que je commence à vieillir, mais on est très placide quand on lit ce genre de texte. C'est très très apaisant. Je sais pas comment dire ça. On s'attend tellement peu à lire ça que bon. Mais en même temps, il dit pas que ça, évidemment.
Oui, puis en même temps, bon, c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu aplaties là-dedans. Par exemple, il donne au verset 11, voilà, il donne même le sens de la durée.
Oui.
C'est un peu exagéré, si vous voulez, parce que dans le texte, il donne au cœur l'éternité, quoi. Ah, oui. Carrément l'éternité. Donc c'est vrai que là, quand même, aller mettre le sens de la durée pour traduire le terme « olam », et c'est même pas le sens de l'éternité, c'est il met l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est quand même... Du coup, c'est quoi ?
C'est pas la même chose.
Ah, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Mais l'éternité, c'est grec, hein, alors que « olam », c'est un aïon, quoi. C'est un...
Oui, c'est pas l'éternité.
L'éternité, c'est métaphysique, c'est grec.
Oui, oui sauf que l'éternité grecque, est-ce que c'est quoi? C'est un temps qui dure indéfiniment.
Oui.
Alors que là, c'est peut-être un peu autre chose. Mais...
Oui, mais c'est parce que toi, tu dis l'éternel.
L'éternité.
Que, oui, mais je sais, mais quand oui. tu parles de Dieu, tu
ah,
peux dire l'éternel.
Quand on parle de Dieu, on dit l'éternel
moi,
depuis
je
là.
Je ne le dis pas, parce que c'est pas, oui. pas par tradition uniquement, hein, parce que je trouve ça oui. très beau. Ça me fait penser au péplum.
Oui.
Dans les 10 commandements, etc.
Exactement.
Et c'est vrai que ce n'est pas tellement dans la tradition catholique, on ne le dit pas.
C'est Lucée Erasme qui a inventé ça, donc au,
oui,
voilà.
Oui.
Je ne sais pas si c'est fin 15e, début 16e, quelque chose comme ça. Il a traduit comme ça pour essayer de traduire cette source de lettres en mettant l'éternel. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus très satisfaisant pour cette traduction du tétragramme YH Yod He Vav He. De traduire par l'éternel.
Parce qu'en gros, ce qui est dit, c'est qu'il donne à l'homme le sens, oui, d'une forme d'infini, on va dire, temporel, tout en lui refusant la connaissance du sens de tout ça. Ça m'a fait penser à Proust. Vous savez, Proust passe son temps à essayer de décrypter des signes qui lui font goûter quelque chose de l'éternité. La Madeleine de Proust, c'est ça, quand même, ou quand il trébuche sur les pavés de l'hôtel de Guermantes, et il se souvient d'avoir trébuché à Venise sur la place Saint-Marc, et il s'aperçoit que le temps n'existe pas, au fond, qu'il y a quelque chose qui... Mais il ne fait que le pressentir. Il n'a pas la clé
oui.
de l'énigme. Mmh. Il n'a pas le début ni la fin. Il n'a pas le sens de cette histoire-là. Et c'est assez beau. Je pense qu'il y a toujours eu des mystiques ou des artistes beaucoup plus sensibles à ça, au temps, au mystère du temps. Saint Augustin, livre 11 des Confessions.
Oui.
Et là, il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là, quand même.
Oui, puis en même temps, c'est un don de Dieu, cette sorte de perception de l'éternité. C'est un don de Dieu, donc c'est pas par des pyramides, c'est pas de cet ordre-là. C'est quand même quelque chose qui nous habite, hein, qui est au cœur de l'être. Hein, au cœur de l'être, c'est même pas. C'est pour ça que le sens de la durée. C'est même pas le sens de l'éternité, c'est mettre au cœur même de l'humain quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Donc c'est peut-être quelque chose de Dieu lui-même, en fait, qui est mis au cœur de l'humain. Alors nous, on peut appeler ça le Saint-Esprit, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, quand même. Voilà. Où la parole de Dieu demeure éternellement, comme on va le voir dans 1 Pierre, ou comme qui cite d'ailleurs Ésaïe. Mais c'est un peu quelque chose de cet ordre qui dit que, comme un don, il y a à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est à découvrir, peut-être par des éclairs de perception, l'éternité est déjà là, finalement. C'est peut-être à ça que tu essayais d'ouvrir mm-hmm. tes élèves avec une petite bougie.
Ouais. Mm-hmm.
C'est cette expérience que l'éternité est déjà là, et donc qu'elle n'est pas à conquérir aussi. Et ça, je crois que c'est quand même une grande... Une belle façon, je crois, de concevoir sa vie, oui. Alors après, je sais qu'il n'y a rien de bon je ne sais pas pourquoi il a mis pour lui, alors que c'est pour eux. Quoi. C'est parce qu'au fait, tout d'un coup, il passe à,
oui.
À l'homme en général, je pense, mm-hmm, hein, mm-hmm. alors que abstrait, finalement, lui abstrait, alors que c'est pour eux, il y a ce collectif, je trouve, qui est intéressant. Que de se réjouir et de se donner du bon temps durant la vie. C'est vrai que je ne crois pas que ce soit ça, moi, en fait. Hein. Je ne sais pas très bien ce qui est dans l'hébreu. Ce n'est pas du tout quelque chose comme ça. Pour eux, sinon, de se réjouir et de faire du bon, de faire du tov. Mm-hmm. Ce n'est pas rien du tout, parce que le tov, le bon, c'est quand Dieu crée, vous voyez, dans la Genèse, il regarde et il vit que c'était bon. Donc le tov, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une création... d'une bonne création, voilà, on crée du vrai, quoi, du solide et du vrai. Donc de faire, voilà, de faire du vrai, du bon, voilà.
C'est pas du bon temps,
c'est du bon.
Du bon
tout court. Mmh. Et donc c'est d'être dans une certaine créativité finalement, et que finalement c'est ça qui est c'est ça qui est bon, finalement. C'est d'avoir des instants où on a l'impression qu'on est dans le vrai, quoi. Et c'est vrai que je pense que là, c'est autre chose que de se donner du bon temps. Ça fait, c'est de l'hédonisme. Je ne comprends pas qu'ils aient pu traduire comme ça. C'est surréaliste quand même. Mais bon, je ne sais pas, on traduit comme... Parce qu'en fait, comme dans la suite, effectivement, ils parlent du manger et du boire. Hein, ils se disent, bon, ben on va... Ils ont médité là-dessus et ils ont tiré le sens au début.
Et ici, ils disent le bien-être. Hein.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mot en hébreu pour dire le bonheur, en fait. C'est, ouais. On dit le tov.
Oui, c'est le bonheur humain au sens des sagesses, c'est-à-dire, effectivement, être en bonne santé, avoir de la famille, ne pas être trop pauvre, avoir du plaisir à manger. Voilà, le bonheur. Alors, on sait que c'est très fragile, évidemment. Et que le sens de la vie ne peut pas dépendre uniquement de ça, mais ça ne veut pas dire évidemment que ce soit futile, comme certaines traditions ascétiques l'ont laissé croire. Mais c'est le bonheur humain. Mais
est-ce que ce n'est pas plus que ça, le tov, carrément, le bonheur?
C'est déjà pas mal. Hein, c'est...
Oui. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est... Par exemple, quand à la fin du psaume 22 pour vous et 23 pour nous, il y a marqué le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie? Dans cette fête de demeurer avec Yahvé, si vous voulez, là on a quelque chose qui est plus que simplement le bien-être. Hein. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'être dans le vrai, quoi, d'être dans le juste, hein, d'être dans le bon, quoi. Et je peux peut-être que ça vise quand on parle de shalom, c'est-à-dire c'est un état de paix. Qui est dû à l'aboutissement d'un processus de création, de développement. Peut-être arriver au bout du psaume 8, finalement, dans ce processus d'évolution-là, on est dans le shalom, cette sorte de paix qui est un aboutissement d'une évolution, d'une construction, et puis on est dans le bon aussi, c'est-à-dire dans... Donc peut-être que voilà, le bonheur, le bon pour l'homme... C'est d'être créateur dans un sens, d'avoir des instants de créativité vraie, où c'est comme dans le psaume premier, voilà, d'être un arbre qui produit son fruit en son temps. Pas de produire les fruits de Dieu au temps de Dieu, c'est tout d'un coup être, parce qu'on est un poirier, ben, on a pu donner une poire alors que quelqu'un avait faim et passe au pied de l'arbre. On a produit notre fruit et il y a là quelque chose qui est bon pour l'homme et c'est là que se niche peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, je pense. Vous voyez pas dans...
Oui, il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres car telle est sa part. Et au fond...
au verset 13, le verset oui, qui suit, voilà.
Oui. Là, c'est au verset 22.
Ah oui, oui.
Je vois qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres. Mais il y a un autre endroit où il dit que justement la réussite attire la jalousie. Moi j'avais ça, mais je ne l'ai pas vu.
Mais
là.
Sinon il y a le verset 13, hein, depuis tout homme qui mange et qui boit et voit du bon dans tout son travail en fait. C'est pas... et goûte au bonheur en tout son travail. Alors c'est vrai, comme je disais, le tov c'est à la fois le bonheur et le bon, quoi. Mais là... C'est vrai que quand on a pu faire quelque chose et qu'on voit que, je veux dire, c'est de la belle ouvrage, quoi, que ça produit quelque chose.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Il y a quelque chose qui est vrai, quoi. Je veux dire, on a l'impression, d'être dans le temps.
Tout
dans
à
la
fait.
Vérité, oui.
C'est l'adhésion de l'artisan à son œuvre, qui n'a pas l'esprit morcelé en plusieurs préoccupations, mais qui est tout entier donné à l'accomplissement de sa tâche. Et qui en tire une satisfaction.
Oui.
Satisfaction de la belle ouvrage, effectivement, de l'accomplissement, de sa capacité créatrice, etc. Et bon, je prends l'exemple de l'artisan, mais c'est le paysan, c'est le clerc, c'est tous les métiers. Et alors, évidemment, on est là un peu dans une utopie, j'allais dire un peu d'ancien régime, corporatiste. Où il y a des corps de métiers identifiables, on n'est pas dans tous ces métiers actuels un peu volatiles, où voilà, de communication, de fusion-acquisition, de coaching, de, bon, c'est non, sûr, de management. Oui, oui, bien sûr, mais simplement, il faut transposer ça. Il faut transposer ça. Et on voit bien que cette relation à l'ouvrage n'est pas aussi simple, mais c'est pas du tout, je ne suis pas du tout un prophète de malheur. Je dis que c'est moins évident, peut-être.
Par exemple, ma mère, quand elle a fait son catéchisme, d'ailleurs, dans cette maison, c'était pendant la guerre, en fait, milieu du siècle dernier, son pasteur lui avait dit, je viens de rencontrer une dame, une femme de ménage. Et je lui ai demandé, qui s'était convertie, en fait, qui venait de l'athéisme complet, et il lui a demandé, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous de croire en Dieu? Et elle a répondu, maintenant, je balaye sous les lits. Je balaye sous les lits. C'est et c'est vrai que ça l'avait fait rigoler, si vous voulez. Et puis, quoi? Mais en même temps, c'est beau. Voyez, on est dans cette belle ouvrage. C'est-à-dire que c'est... Bon, la patronne ne voyait pas si on balayait sous les lits ou pas. Mais du coup, elle était dans... Peut-être, voyez, intuitivement, dans cette idée, c'est on travaille pour Dieu. Et finalement, le travail, la belle ouvrage, ben, c'est bien fait avec son cœur. Et trouver une joie, un bonheur dans cet accomplissement. Tout simple, finalement. Et il y a une façon, vous voyez, de...
L'image est extraordinaire, ouais. Parce qu'on sait très bien que dans tout métier, voilà, il y a aussi des zones qui échappent et qu'on laisse un peu... Et c'est très très beau comme image, effectivement. Mais il me semblait, moi j'avais le souvenir d'un verset, mais je ne le trouve plus, où on parle effectivement de l'accomplissement de ce qu'on a à faire, de son devoir d'État, comme on disait dans le catéchisme, mais qui suscite immédiatement la jalousie. Donc on a une satisfaction pour soi, mais finalement la réussite, alors je cherche, mais enfin on voit bien de toute façon ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, même si on a la gratification et la reconnaissance pour la réussite, de toute façon, immédiatement, on suscite aussi la jalousie, le murmure, etc. Donc, de toute façon, tout est toujours un peu corrompu. Et la plénitude n'existe pas.
Sauf peut-être en Dieu, où voilà, il n'y a rien à retrancher ou à enlever. Ça, par contre, Dieu, ce qu'il fait, ça dure pour l'éternité, ou je dirais pour toujours, là, au verset 14. Et il y a cette sorte de plénitude en Dieu, mais dans l'humain, oui, c'est quand même très mitigé. Il y a peut-être ces instants de vérité, voilà, ces instants de vérité.
Alors, ce qui est étonnant, bien sûr, c'est par rapport à l'humanisme du psaume 8, puisqu'il y a une forme d'humanisme, effectivement, puisque l'homme est presque Dieu. Ici, il y a un anti-humanisme total. Et c'est intéressant parce que il y a toujours eu cette tendance un peu au yo-yo. Hein, l'homme est à l'image de Dieu, mais on s'aperçoit aussi que l'homme livré à son inertie n'est pas grand chose, et donc là c'est quand même assez énorme, la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Waouh.
C'est donc, quand même gros, il a été quand même créé à l'image de Dieu.
Bien sûr, mais en même temps on retrouve l'idée colbassard, toute chair, et c'est peut-être que la bête n'est pas non plus si bête au fond. Mais simplement, elle n'est pas... puisque c'est quand même un texte sous influence grecque. Donc l'animal, le zoon, c'est ce qui est non logikon, c'est-à-dire ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas doté du logos, qui n'est pas rationnel. Puisque pour Aristote, l'homme est un animal rationnel. Mais au fond, l'animal n'est peut-être pas si... Au fond, j'ai l'impression que c'est un combiné de pensée hébraïque et de pensée grecque. C'est à la fois l'animal qui n'est pas rationnel et qui n'a donc pas la dignité de l'humain, mais en même temps, c'est aussi toute chair. L'animal participe, d'où son élection dans l'Arche de Noé, il participe aussi au nefesh, c'est-à-dire au souffle qui anime, etc. Donc, être ravalé au rang de l'animal, si on a une lecture grecque, ça va pas. Si on a une lecture hébraïque, peut-être un peu mieux. Donc j'ai l'impression que c'est des mots grecs plaqués sur une pensée peut-être plus juive, plus en tout cas plus holistique dans le rapport au... Parce que chez les Grecs, il y a quand même une dissociation totale entre l'homme et l'animal. Alors qu'ici, peut-être, au fond, on est encore un peu dans l'arche, dans l'alliance, du créé avec Dieu.
Il y a peut-être une supériorité quand même de l'humain. Donc dans la phrase que tu dis au verset 18, finalement, c'est qu'en fait, ils vont voir par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Et donc, il peut y avoir cette conscience de l'homme quand même sur son propre cheminement, d'abord qu'il va mourir, et qu'il va avoir cette réflexion sur sa propre nature que ne peut pas avoir l'animal quand même. Donc la supériorité de la bête, de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité, tout est donc buée, souffle, est belle, vous voyez. Hein, c'est, mais quand même, il y a cette expérience de l'homme qui peut avoir conscience de ça, finalement. Et ça, peut-être, ça change quelque chose. Alors peut-être qu'il faut dire peut-être un tout petit mot sur l'histoire de la crainte de Dieu, du jugement, des choses comme ça. La crainte de Dieu, je ne crois pas que ce soit la crainte de la peur, la trouille devant Dieu. C'est plutôt être impressionné, à mon avis. C'est distinguer l'homme de Dieu, justement. Et cette conscience qu'on est dans la finitude, c'est intéressant, je pense, à noter. En particulier, si vous voulez, dans cette réflexion sur l'éternité et ce qui fait sens à dans notre existence, c'est pas vers le sens de la vie future là, c'est-à-dire d'une espérance de, et ça c'est tout à fait anti-grec et anti-égyptien, j'allais dire, c'est de dire bah de toute façon tout passe à la trappe, ou en tout cas qu'est-ce qu'on en sait, hein? Au verset 20-21, dit qu'est-ce qu'on en sait si le souffle, la rouard, c'est quand même assez fort. Hein,
le verset 21 semble corriger un peu la brutalité du verset.
Oui, tout à fait. Parce que le souffle monte.
Ce qui monte, c'est peut-être bien la pensée de l'homme vers Dieu. Il se dégage de l'animal pour devenir spirituel. Il se dégage du matériel pour devenir un être spirituel.
Oui, mais c'est mis à l'interrogatif quand même.
Ah oui, bien sûr.
Qui sait que ce soit vrai?
Néanmoins, ça me semble atténuer un tout petit peu la brutalité de la nullité de l'homme.
Ça atténue, oui.
Et puis juste avant, il y a le fameux « dust to dust », comme on entend dans les films américains. La poussière va à la poussière,
pour
c'est là.
Hein, la poussière, hein.
Ce qu'on utilise pour le mercredi des cendres. Je ne sais pas si vous faites pratiquer ce rite.
On ne pratique pas, non.
mais on a laissé tomber cette phrase. On dit maintenant convertissez-vous, croyez en l'évangile. On s'est un peu protestantisé là, ça. Mais au fond, on serait encore plus peut-être fidèle à une tradition biblique qui vous est chère en reprenant ce verset.
Je reconnais que si avoir bien. Abandonné nous le carême, les cendres, c'est de l'anticatholicisme primaire. Ça vient effectivement du XVIe siècle. Et on le retrouve, par exemple, au carnaval de Bâle. C'est quand même surréaliste. Donc, c'était protestant depuis l'origine. Ils font exprès de faire leur carnaval en plein milieu du carême, avec une fête à tout casser, en plein milieu. C'est de l'anticatholicisme primaire. C'est presque touchant d'avoir gardé cette mémoire, j'allais dire, de cette... Alors que, bon, c'est...
C'était pour te faire avouer que je...
Effectivement, si vous voulez, ce qui choquait plutôt le protestantisme, ce n'est pas qu'on fasse le carême, c'est qu'il y a cette sorte d'obligation qu'au coup de sifflet, l'humanité toute entière doit pleurer sur son péché. Alors à Vendredi Saint, au coup de sifflet, on pleure sur le pauvre Jésus, puis le lendemain, on éclate de joie au coup de sifflet. Alléluia, tout machin. Et ça... Quoi ?
Aux cloches.
Ah oui, je me suis trompé. Ça, c'était... Donc c'est ça qui choquait les protestants, c'est une sorte de religion obligatoire où on est dans le... Voilà, en disant, si vous voulez faire carême, si vous voulez jeûner, ben faites comme le dit Jésus, vous jeûnez discrètement pour vous, et c'est dans une démarche sincère, volontaire, une liberté de choix, ben, du coup on ne le fait pas. C'est un peu le problème, si vous voulez, de cette, c'est que bon, souvent, voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, bien sûr, c'est la sincérité qui est essentielle. Bah oui, mais il faut quand même le faire, sinon, bah ça marche pas. À la limite, il vaut mieux le faire au coup de sifflet ou au coup de cloche que de pas le faire du tout. Ce serait mieux de le faire spontanément, avec sa sincérité, dans son intimité, dans sa discrétion, de le faire pour soi et pour Dieu, pas le faire parce qu'on nous dit de le faire. Moi, je pense. Cela dit, encore faut-il le faire. Prendre ces temps de retraite, ces temps d'assaise, ces temps de recul, ces temps de cendre, voilà, pourquoi pas.
Il y en a un au fond de la salle, là-haut,
oui.
Qui serait content d'être
Oui, parce qu'il faisait le jeûne tous les vendredis, lui. Volontairement, délibérément.
Je dis souvent ça à Noël ou à Pâques. C'est ouais. Évidemment, on peut fêter Noël tous les jours et j'espère que d'une certaine manière, on le fait. C'est très bérulien, d'ailleurs, l'idée que... On vit tous les mystères tous les jours et on peut fêter la résurrection tous les jours, c'est ce qu'on fait à chaque messe d'ailleurs. Mais ça n'exclut pas non plus le fait que c'est bien qu'il y ait des temps où on le fait ensemble. Et du coup, forcément, ça passe par un petit coup de sifflet.
Oui.
De même, c'est bien qu'il y ait aussi des lieux où on puisse prier ensemble, même si évidemment on peut prier partout, dans le métro. Mais c'est bien quand même qu'il y ait des églises. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, distinguer sans séparer, c'est toujours... Voilà, il faudrait... au fond, on peut s'entendre, quoi.
Je crois qu'on peut s'entendre. D'ailleurs, de plus en plus, on entend, par exemple, j'ai vu dans une église, parce qu'en fait, j'aime bien entrer dans les églises, avec marqué un petit papier qui disait en substance, devant les présentoirs à cierges, écoutez, rigolez pas les mecs, quand même, la bougie, elle ne prie pas à votre place, quoi. C'était pas dit comme ça, mais en gros, ça voulait dire ça. Vous avez peut-être la même chose à Saint-Eustache, non? Et je crois que c'est quand même pas inutile. C'est effectivement le culte, la messe, les bougies, les carêmes et autres avant. Bon, c'est des pédagogies qui sont utiles parce que l'homme n'est que souffle et donc il a besoin de lait à boire pour grandir. Ben voilà, c'est le lait à boire. Voilà, c'est pas l'essentiel, mais c'est quand même assez utile de boire du lait pour grandir. Donc là, il y a cette interrogation quand même, effectivement, je crois qu'il dit, en tout cas, ne comptez pas comme une chose sûre sur la vie future pour donner sens à votre existence, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, je crois que quand même, globalement, dans l'Ancien Testament en particulier, mais aussi dans l'Évangile, et particulièrement dans la bouche de Jésus, il ne nous tient pas par le bout du nez pour nous dire, soyez bien sages, soyez bien religieux, c'est comme ça que vous aurez la vie éternelle, et que c'est ça qui donne sens à l'existence. Il est vraiment dans le temps présent, mais ça on le dit souvent. Et finalement, là aussi, l'Ecclésiaste, dans ce sens, il dit, mais écoutez, si votre projet, c'est de vous bâtir l'éternité à coup de je ne sais pas quoi, bon, peut-être que oui, mais qui sait si vraiment le souffle des fils d'Adam, nous ne sommes que poussière, la supériorité de l'homme sur l'animal est nulle, qui sait si ça va monter et que le souffle de l'animal descend, on n'en sait rien. Et donc, ce n'est pas ça qui fait sens dans l'existence. On le verra, finalement. Cette réponse, ça sera pour plus tard. Alors, c'est vrai que le Christ, il dit, oui, il y a une vie future, mais en gros, il dit, à chaque jour suffit sa peine, demain se préoccupera du lendemain, c'est pas notre affaire. Et je crois qu'effectivement, il vaut mieux être dans la confiance. Je crois que ça, c'est quand même une grande sagesse, je crois. Parce que, même si on agit dans le présent pour sa vie future, ben on est toujours dans l'égoïsme finalement. On est dans l'égoïsme en se disant je vais peaufiner ma vie future avec ce que je fais dans le présent, mais du coup on ne vit pas le présent puisque on est toujours dans l'anticipation, comme dit l'Ecclésiaste, d'un futur tout à fait hypothétique, relativement mythologique, ou en tout cas on est dans une sorte de calcul vénal. Oui. Alors que là, mais je dirais, l'Ecclésiaste n'est pas contre les actes, finalement. Mais il dit, c'est pour la beauté du geste, finalement. Ouais, comme de balayer sous le lit. Ça ne sert à rien. Même si ça ne servait à rien, c'est la beauté du geste qui justifie le présent, d'avoir un acte créatif, un bel acte. Donc,
tout à fait. Et c'est ça qui fait que le souffle de l'homme monte, justement.
Oui.
Parce que la bête n'agit pas dans... Nous, on a toujours deux possibilités. C'est un lieu commun, d'ailleurs, de la pensée grecque aussi. C'est le chemin du vice et de la vertu, là, dans le mythe d'Hercule. On peut vivre cette vie de deux manières à chaque instant. Soit on la vit pour nous, repliée sur nous, soit on la vit autrement. Et chaque seconde peut être vécue de ces deux manières. Et pour l'animal, non. Donc, c'est ça notre mystère, c'est que effectivement, on peut choisir de vivre comme l'animal ou bien on peut choisir de faire monter notre souffle comme l'encens devant Dieu qui monte pour la prière du soir.
De jouir de ses œuvres, du coup, voilà. Alors peut-être on voit le dernier texte.
Le dernier texte.
Oui. Passage qui m'intéresse beaucoup, ça c'est l'oppresseur.
Ah oui. Oui, on y pensait, oui. Bien sûr.
Bien sûr. Le côté très. Oui. Et puis il y a pas de.
Les pleurs des opprimés, ils n'ont pas de consolateur. La force est du côté des oppresseurs. Et alors comment ça se fait qu'on dit après ça, après les oppresseurs, ils n'ont pas de consolateur?
Je pense que c'est une reprise des opprimés.
Ah bon.
Je pense. Oui.
Non, mais
Ils n'ont pas non plus de consolateur, parce qu'au fond, c'est eux les plus à plaindre, peut-être.
Et puis, ils n'ont pas de...
Dans une certaine logique.
C'est cette consolation, hein, on sent le cri des Haïts, consoler, consoler mon peuple, oui. C'est très très beau. On le retrouve aussi, d'ailleurs, dans le paraclet, hein, le consolateur que promet Jésus. C'est en grec et pas en hébreu, bien sûr, mais c'est bien ce concept qui est là. Donc je pense que c'est sorte de passage dépressif, c'est bien sûr exagéré, parce que c'est comme quand il dit « il n'y a aucune justice, je ne vois que méchanceté partout ». Oui, bon, n'exagérons pas non plus, je veux dire, il y a de la méchanceté, il y a de l'oppression, il y a du cataclysme, mais il n'y a pas que ça. Au contraire, je dirais, moi, quand je rencontre les gens que je rencontre, je dirais 9 sur 10, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, ils mettent leur cœur, et puis la vie n'est pas facile, et puis oui, des fois on est méchant, mais on n'est pas méchant en général sans bonne raison de l'être. C'est pas des bonnes raisons au sens de justifier la méchanceté, mais plutôt de la considérer comme un symptôme d'une pathologie. Donc je crois que c'est exagéré. En même temps, c'est vrai que ça dit bien le fait que nous sommes catastrophés, abattus devant tant de méchanceté et qu'on ne voit pas d'issue. Finalement, je trouve que de dire, voilà, jouir de ses œuvres, c'est-à-dire d'un petit acte de bonté qui produit du bon, eh bien, il y a quelque chose là qui dit, ben même si c'était inutile, même s'il n'y a que du mal, même s'il n'y a que de la catastrophe, eh ben un petit acte qui produit du bon, de balayer sous le lit peut-être, eh bien il y a quelque chose qui, dans le monde, je dirais, ouvre au meilleur. Voilà. Et je pense que finalement, c'est pas faux, si vous voulez. Comment ça peut marcher rationnellement? Moi j'ai l'impression que voilà, n'importe quel imbécile est capable de tirer sur la Kalachnikov et de tuer 40 personnes. Ça demande pas un prodige d'habileté, de savoir, de machin. Or, on le sait, pour fabriquer un jeune de 25 ans, il en faut des trésors, je dirais d'abord simplement de nouilles, de beefsteak et d'haricots verts, d'arriver à faire manger l'haricot vert à l'enfant, mais 1000 rencontres, amour, tendresse, éducation par des professeurs qui se décarcassent pour apprendre les déclinaisons pour lui apprendre le lapin. Pour créer un être humain de 25 ans, il faut s'y mettre à des milliers avec des trésors de sagesse. N'importe quel imbécile peut le tuer en une seconde. Alors comment est-ce que ça se fait que la vie, si complexe et si fragile, ait pu quand même exister face à un mal qui est si évident et si puissant? Eh bien, c'est qu'un petit acte de bonté, si vous voulez, il provoque une sorte de résonance avec l'ensemble du créé, et il provoque des sortes d'ondes, à mon avis, qui transforment en profondeur la création. Et je ne sais pas comment ça marche, mais il y a une onde puissante de petits actes de bonté qui transforme le monde et qui fait que c'est quand même ça qui est victorieux en définitive. C'est surréaliste, mais je dirais notre seule existence en est la preuve.
Alors on peut être troublé quand même, effectivement, par la répétition de « ils n'ont pas de consolateur » aussi pour les oppresseurs. On peut imaginer que l'oppresseur étant enfermé dans sa haine, lui-même en souffre. Hein. Vous savez l'adage socratique « nul n'est méchant volontairement ». Et donc il est dans son enfer, et dans cet enfer, il n'a pas de consolateur. Et la pensée biblique s'étend toujours au bourreau aussi, même si lorsqu'il y a un choc comme ça de toute une population, On n'ose pas insister là-dessus, mais j'ai déjà vu défiler sur les réseaux sociaux des commentaires de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les églises chrétiennes prient déjà aussi pour les terroristes d'une certaine manière. Parce que... Eh oui. Alors il y a un temps pour tout, c'est sûr qu'il faut peut-être pas mettre l'accent là-dessus, mais il faut savoir que la folie de la foi s'étend jusque-là. Parce que Dieu sait ce qu'ils vivent aussi.
C'est justement ce que je trouve dans ce texte, c'est l'absence totale de foi. Il n'y a aucune confiance, il n'y a aucun regard vers un être transcendant.
Ben, il est quand même au milieu, non ?
On parle de Dieu sur le mode de l'évidence, quand même.
De l'éternité.
Il serait plutôt là pour écraser que pour redonner confiance et consoler.
Non, il donne la possibilité de faire du bon. Il donne dans notre cœur l'éternité, c'est-à-dire dans notre capacité à faire des choix au cœur de nous-mêmes, l'éternité même. En plus, il y a marqué que lui, bon, ce qu'il fait, ça dure pour toujours. Voilà. Il y a quand même des petites choses, justement. Et puis moi, je vois volontiers dans cette lamentation à la fin, je dirais, un appel à une prise de conscience. Je dirais, on se dit, ben oui, et ça, c'est vrai que c'est désespérant de voir ça. Eh bien, nos petits actes de bonté, de création du bon, peut-être que c'est justement être nous source de consolation pour l'opprimé qui est là, qui pleure et qui est là, et voir ça sous le soleil. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être désespérant, mais dire, bon, j'aurai un geste peut-être de consolation, moi. Et donc voir en écho ce « consoler mon peuple » d'Ésaïe, qui nous appelle à voilà, nous mobiliser, nous sentir, bon, sachant que la consolation, c'est pas simplement taper sur l'épaule en disant « ça va aller mieux ». La consolation, c'est aussi conversion, c'est-à-dire conversion, bon, de l'humeur, de la capacité à espérer, mais aussi conversion de l'être vers le meilleur et non pas vers la mort et l'oppression. Donc on peut y voir aussi la consolation du bourreau, dans le sens où pas forcément où il était triste. Lui, il peut exulter de cette horreur, mais sa consolation dans le sens d'une conversion, oui, du bourreau, c'est-à-dire d'un changement d'humeur profond dans sa façon de voir.
Est-ce que le côté le plus étrange du texte, c'est pas le côté très disparate, très décousu?
Oui.
On ne sent pas une pensée cohérente, on ne comprend pas, enfin, j'ai du mal à comprendre quelle est finalement la finalité de ce texte. Enfin,
On avait fait une lecture à Saint-Eustache une fois. C'était assez drôle.
Du début jusqu'à
la fin. Je me souviens d'un lecteur qui se tenait comme je me tiens, là, comme ça. Et c'était à peu près ça. Et ça passait très bien. Un côté un peu, pas désabusé, mais voilà, quelqu'un qui a un peu tout vu, un peu Renan. Un homme qui a un peu, voilà, qui a fait le tour d'un certain nombre de questions et qui n'en tire ni amertume, ni ressentiment, ni acrimonie, mais qui dit, voilà, c'est comme ça.
Mais en même temps...
Et que ça ait droit de citer dans la Bible, ça, je trouve ça... Parce qu'il dit « je » comme le psalmiste. Et moi, ça me manque toujours dans l'Évangile. Dans l'Évangile, ça manque d'un « je ». Il n'y a pas un témoin qui dit « ah, ce jour-là, vraiment... » Et voilà. Là, il dit « je ». On aimerait le connaître un peu.
Et puis en même temps, c'est vrai que c'est comme c'est difficile de faire la synthèse, c'est pas une leçon, c'est pas une thèse. Mais c'est ça qui est génial, je trouve. Ça nous rejoint dans notre humeur, hein. Et ça peut mettre des mots là-dessus, et c'est des fois une humeur changeante. Ouais.
Et je pense que c'est un genre en plus qui n'existait pas, parce que quand on lit Antigone, bon, c'est un genre qui existe. Ici, à quoi ça se raccroche? Je pense que c'est très singulier.
Comme genre littéraire.
Oui, comme genre littéraire.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait? C'est le 3e siècle, c'est à peu près avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pouvait ressembler à ça? Peut-être des correspondances. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est ça qui est étonnant, j'imagine, celui qui écrit ça là-dedans.
Alors, troisième siècle, ce sera à peu près l'époque d'Alexandre. Effectivement, à cette époque-là, Alexandre est venu envahir quand même tout Israël. Et il y avait ce,
oui, donc, on est même après Alexandre, quoi. On est sous les diadoques, quoi, les séleucides.
Mais donc, il y a eu quand même un vrai dialogue judéo-grec, puisque Alexandre, il y a dans le Talmud un peu des dialogues entre Alexandre et les rabbins de Jérusalem. Mm-hmm. Donc, il y a eu ce dialogue quand même. Et puis, c'est vers moins 300 qu'on a commencé à traduire la Bible hébraïque en grec avec la Bible des Septante. Donc, il y avait, c'est vrai, un vrai profond dialogue dès cette époque-là entre judaïsme et hellénisme, entre cette intuition géniale, comme tu dis, théologique, spirituelle des Hébreux et la philosophie grecque. Et ce choc, j'allais dire, de pensée, de sagesse et d'expérience.
C'est un peu de l'interculturel, de l'interreligieux. Hein. Mmh. Au fond, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, avec aussi d'autres traditions, on voit bien, on a eu Abdennour Bidar, on voit bien qu'un certain islam des Lumières, on va dire un islam un peu éclairé, enfin j'aime pas trop l'expression, mais soluble dans la République, etc. C'est un islam un peu chrétien, au fond. Il y a quelque chose dans un islam personnaliste qui reconnaît la personne. On voit bien qu'on va être appelé aussi à trouver des synthèses, et des synthèses qui ne soient pas du nivellement, qui ne soient pas un petit peu de ci, un petit peu de ça, qui soient tout le contraire du supermarché et du syncrétisme. Et il faudra qu'il y ait des voix audible à la fois par un musulman et un chrétien, sans dévaluer ni l'un ni l'autre. Et lui, c'est ce qu'il arrive à faire. Il est audible à la fois par un grec païen et par un juif. C'est assez génial, hein. Il trouve un ton. Et en plus, c'est pas agressif. Puis tout le monde peut se reconnaître. Donc, à la limite, on lui dirait « Mais je crois pas à ce que tu dis ». C'est le cadet de ses soucis. Hein. Il ne cherche pas l'adhésion. Il ne cherche pas à convaincre. Il n'y a pas une rhétorique de la persuasion. Il n'y a pas de captatio.
Non, c'est un partage. Il dit, bah, écoutez, moi, j'ai vécu et voilà ce que je veux vous transmettre, finalement.
C'est pour ça qu'on est complètement démunis face à cet acte. Oui, oui, oui. Alors, on finit par Pierre.
Alors, on finit par
assez
Pierre.
Vite, oui.
Qu'est-ce qu'il nous lit, un Pierre ? Merci.
Guillaume, je ne sais pas.
Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que, par lui, vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
Alors, la longue citation, c'est le psaume 113, je crois, non ?
C'est Isaïe 40, non ?
Hein ?
Je sais pas.
Ça alors ? Parce que moi, j'ai pas de notes là-dedans. Alors, on va regarder en vitesse. Ça ressemble à l'Isaïe, mais il me semblait qu'il y avait un psaume qui disait ça aussi. Mais... Alors, on va regarder. L'Exode ? Non, mais peut-être que c'est moi qui déraille, en fait.
Il n'y a pas de note dans 1 Pierre 1.
Il doit y avoir 25, une note, mais c'est Isaïe. On avait dit Isaïe, il me semble.
Mais Isaïe 40,
on
oui.
On avait dû dire Isaïe.
Petite E.
Oui.
Oui. Ah non, Exode 40, oui. Exode 40.
Ah bon ?
Exode 40, 6-8.
Tiens.
Ah oui, c'est Exode. Hein. Exode 40. Hein.
Alors, le hasard fait que le psaume 113 ressemble un peu aussi. Ah, il y a peut-être un... Parce que vous savez, les citations dans le Nouveau Testament, quelquefois, sont...
Non, c'est pas Exode.
Hein. Sont pas sont des fausses citations. Oui, parce que, en fait, le canon n'était pas aussi rigoureux. Jésus souvent cite mal la Bible. Oui, oui.
Non, non, c'est Ésaïe 40, c'est pas
c'est
Exode.
C'est Ésaïe 40. Hein. Ésaïe mais 40, in extenso, il n'y a pas un mélange.
Ésaïe 40. Une voix dit « Crie !» Et l'on répond « Que crierai-je ? » Toute chair est de l'herbe.
Ah, oui.
Et tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu.
D'accord.
Vachement beau.
C'est très très beau.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au début, si vous voulez, c'est peut-être trompeur, cette histoire. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est... Alors, les âmes, on sait bien hein, que l'âme, c'est... Dans ce contexte, c'est pas l'âme, c'est-à-dire que la partie spirituelle qui est versée dans le corps, selon la conception grecque, finalement, de la personne humaine. D'abord, là, c'est la psyché, c'est plutôt la conscience, c'est plutôt... Ou alors, en tout cas, bon, en hébreu, ce serait la nefesh, c'est comme disait Jérôme, c'est plutôt l'être. C'est plutôt l'être entier, finalement. Donc, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Mais alors, la vérité, c'est pas simplement... la vérité au sens grec du terme, c'est-à-dire du vrai et du faux. C'est plutôt la fidélité, c'est plutôt une vérité de relation. D'ailleurs, on le voit, en obéissant à la vérité, dans un amour fraternel, sans hypocrisie. Donc on le voit bien que c'est une question relationnelle. Ce n'est pas une question d'avoir la bonne croyance ou d'avoir le bon geste ou je ne sais pas quoi, mais c'est obéir à la fidélité, c'est-à-dire se laisser inspirer par la fidélité dans un amour fraternel, dans un amour d'égal à égal, de lien qu'on ne peut pas défaire, comme le lien de fraternité normalement, et puis sans hypocrisie, c'est-à-dire sans duplicité, c'est-à-dire avec un cœur sans partage, et avec constance, donc avec une durée dans le temps peut-être, ou quelque chose comme ça, ou alors avec ardeur, ou avec passion peut-être, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Donc bref, c'est quand même ça qui est en cause, et c'est vrai qu'on voit que le lieu du salut, c'est une transformation de l'être, finalement, pour avoir cette qualité de fidélité, qualité de relation, qualité de d'être avec l'autre, hein, avec les autres, hein, voilà. Et alors, ce qu'on nous dit dans le verset 23, « Vous avez été engendrés à nouveau par une semence... non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. » Et donc, finalement, ce salut, c'est un ensemencement, et puis à la fin, on voit que c'est aussi un nourrissement, donc un service après-vente. Et finalement, il n'y a pas qu'un début qui est marqué par un ensemencement, et puis ensuite ça grandit tout seul. Non, il y a vraiment sucer... le lait à la mamelle même de Dieu, hein, comme on nous invite à le faire dans les versets à la fin, avec ce côté très, très féminin, finalement, de la tendresse, de la grâce de Dieu.
Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin, c'est un peu cet imaginaire-là qu'on trouve avec l'herbe. Et évidemment, pour passer de l'engendrement dans la corruptibilité à l'engendrement dans l'incorruptibilité, qui était un peu la question de Nicodème aussi, comment faire, il faut renaître, etc.
Nouveau,
et on trouve aussi ça chez saint Paul. Ben, l'opérateur de tout ça, c'est la parole. Hein. C'est la parole, une parole qui nous est adressée, et une parole, nous le verrons la fois prochaine, qui se fait chair. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, parce que
ce qu'on peut dire, c'est que la parole, là, c'est rhéma, c'est pas logos.
Oui.
Et que ça change quelque chose, parce que là, en hébreu, il y a les deux aussi, hein. Il y a finalement hein, le amar qui est la parole créatrice de Dieu au début, et puis il y a le Dabar, qui est la parole des 10 commandements. Là, c'est le Hamar de la parole créatrice. C'est la Réma, c'est pas le Logos. Et donc, c'est pas simplement l'Évangile, vous voyez, l'Évangile, c'est pas simplement les mots du bouquin. L'Évangile, c'est le Christ lui-même, c'est l'ancêtre ensemencement, c'est cette parole créatrice, c'est l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un dynamisme créateur de Dieu, je ne sais pas comment dire. Hein. C'est s'ouvrir à cet acte de Dieu qui propose comme une parole, demandant adhésion, demandant de la digérer, de la faire sienne. Demande de se laisser créer finalement voilà.
C'est obéir aux commandements de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il le répète d'ailleurs, aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance.
Sauf que c'est justement pas en obéissant à ce commandement là, c'est pas obéissant à ce commandement, c'est plutôt s'ouvrir à cette dynamique d'amour qu'est Dieu. Et donc l'obéissance, je verrais plus comme dans les débuts de la lettre aux Romains où il y a marqué mais est-ce que vous ne sentez pas que l'amour de Dieu vous pousse à la compassion ?
Pas toujours.
Pas toujours. Mais c'est le seul moyen quand même, c'est de se laisser toucher par un... Ou Jésus qui dit dans Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » C'est tout d'un coup sentir, vous voyez, cet amour de Dieu en Christ, et puis du coup s'ouvrir à l'amour. Alors ensuite, là, peut-être que la rumination de ces paroles, comme le commandement « aimez-vous les uns les autres », ça peut nous permettre de préparer le sillon pour qu'on puisse recevoir la graine. Mais c'est quand même plus quelque chose de plus profond que simplement le commandement. C'est pas la parole du commandement, c'est la parole du « que la lumière soit et la lumière fut », vous voyez.
On le redira donc la fois prochaine, car nous n'attendrons pas le coup de sifflet pour parler de l'incarnation du Verbe qu'on fête à Noël. C'est pour ça qu'on a choisi ce texte. Donc ce sera le prologue de Jean au mois de décembre. Voilà.
À Saint-Eustache, donc voilà. Impasse Saint-Eustache.
Et bonne entrée dans le temps de l'Avent, fin de semaine prochaine, puisqu'on y sera déjà.
Okay. Merci de nous avoir rejoints.
Merci.